fait ce qu'on veut.
On fait ce qu'on veut.
On dit tout ce qu'on pense
et tout ce qu'on sait.
On sait plein de choses.
Et on pense plein de choses.
Sur Radio Alto, 94.8 FM en Bauge.
Donc on a travaillé avec les 6e à projet artistique et culturel autour de la thématique de la surconsommation, c'est-à-dire d'où vient ce phénomène, qu'est-ce que c'est, comment il a été promu, et puis quelles seraient les solutions pour lutter contre. Et donc on a décidé de réaliser une série d'interviews en conviant des acteurs locaux, des acteurs du massif, pour qu'ils nous livrent leurs solutions à eux pour lutter contre la surconsommation. Bonjour à tous, on va donc commencer cette série d'interviews autour de la surconsommation et des solutions qu'on peut apporter pour tenter de l'endiguer avec nos deux premiers intervenants. Donc ce sont Jérémy et Olivier des Beaujardins. Merci à vous de vous être prêtés au jeu.
Quelle a été votre formation et votre parcours scolaire ?
Alors moi, mon parcours, donc, c'était un parcours général avec un bac scientifique. Ensuite, j'ai fait une école d'infirmière que je n'ai pas terminée d'ailleurs. Et assez récemment, donc, un brevet agricole dans le maraîchage.
Et ben, moi, c'était un bac pro en maintenance industrielle. Et puis après, une année de formation dans les énergies renouvelables. Et là, ça fait 5 ans que j'ai passé le BPREA maraîchage.
Quelle est votre profession actuelle depuis quand ?
Donc, ma profession actuelle, c'est maraîcher. C'est assez récent, ça fait à peu près depuis un an.
Profession actuelle, ouais, 4 ans en maraîchage biologique à la compote.
Avez-vous toujours exercé ce métier ?
Alors, pour moi, non, c'est pas mon premier métier. J'ai d'abord été aide-soignant pendant une dizaine d'années.
Au tout début, c'était dans l'imprimerie. Ensuite, j'ai installé des adoucisseurs d'eau. C'est pour filtrer l'eau, pour enlever le calcaire. Et après ces 3 ans, bah, j'ai fait le BPREA. Et pendant un an, on a essayé de trouver un terrain de maraîchage. Et là, ça fait 4 ans qu'on est sur le terrain de maraîchage.
Qu'est-ce qui vous a amené à votre profession actuelle ? Est-ce que vos rencontres, vos expériences ou aussi vos centres d'intérêt ?
Alors, bah, personnellement, moi, ce qui m'a amené à cette reconversion et à venir vers le maraîchage, donc, bah, c'est plus des questionnements sur l'avenir, sur la consommation, sur l'écologie, et puis voilà, envie de faire plus, de m'engager et de partager mes idées. Voilà.
Bah, moi, j'ai toujours eu un petit jardin, enfin, quand j'ai quitté les parents. Du coup, j'ai toujours essayé de trouver un petit bout de terrain pour faire mes propres légumes. Une envie de jardiner et surtout de cuisiner aussi. Et puis au fil des années, c'est devenu un peu plus une passion tous les jours, tous les week-ends. Et puis à un moment donné, on se pose pas mal de questions et on s'est dit, bah, pourquoi pas faire ce métier-là. Donc voilà.
Quelle est votre démarche agricole ? Expliquez-nous.
Alors la démarche agricole, toujours tourné vers le bio, biologique. Et récemment, il y a eu des études faites sur le maraîchage sol vivant, c'est-à-dire couvrir le sol, apporter de la matière pour créer les champignons, créer de la vie, des bactéries, et tout un tas de choses. Donc on s'est orienté sur ces techniques-là, avec l'agroforesterie notamment, sur les arbres fruitiers. Ouais, beaucoup de fruitiers qui amènent de l'ombre, couper le vent, amener les oiseaux, les auxiliaires, coccinelles, papillons, toutes ces sortes de choses. Et du travail non mécanisé pour pas abîmer la terre, pour pas retourner la terre. Et puis ouais, toujours vraiment couvrir le sol pour éviter que ça sèche et toujours recréer un peu plus de vie dans cette terre.
Quelle est la différence avec les autres pratiques agricoles existant en France ?
Les autres pratiques, ouais, il y a beaucoup de pratiques agricoles. Hein. Tout dépend la surface, les cultures essentiellement, je dirais la non-mécanisation. Mais il y a des dizaines, des vingtaines, en fait, chaque maraîcher, chaque agriculteur a sa technique. À ses envies d'être mécanisé ou non. On parle aussi, ouais, d'agroforesterie, c'est-à-dire de mettre des arbres. Après, je ne pourrais pas vous citer des différences parce qu'il y en a des centaines, des milliers, je ne sais pas, mais chacun a vraiment sa propre technique. Moi, je pourrais considérer que c'est, voilà, moi, c'est pas mécanisé. Sur des petites surfaces, on peut le faire. Sur des grandes surfaces, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ouais, essentiellement la non-mécanisation qui serait une différence parmi les autres grandes exploitations.
Avez-vous des aides et des subventions ?
Oui, j'en ai une essentielle, c'est la subvention bio, puisque tout est en agriculture biologique, on a une subvention de 3 500 € par an pour l'instant. Ça évolue chaque année, donc pour l'instant ça reste à 3 500 €. Sinon il y a la PAC, qui est une subvention à l'hectare. Mais voilà, moi j'ai pas décidé de la prendre puisque il y a à peine un hectare et que ça valait pas le coup. Donc voilà. Autrement, à part les aides, il y a les aides des personnes, des gens, des bauges, des stagiaires, des amis, de la famille, qui est aussi une aide. Voilà, pas de subvention, mais qui est une aide cruciale.
Est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est que la PAC, cette aide-là, s'il te plaît?
Une politique agricole commune, ça s'appelle, et en fait, ça aide. On touche, c'est à peu près entre 150 et 200 euros à l'hectare. C'est-à-dire que, en fait, l'idée c'était pour. Comment je pourrais dire? Pour aider à l'entretien des champs, du paysage agricole, en fait. Pour aider les agriculteurs à entretenir notre paysage, quoi. Parce que ça met du temps, il faut des tracteurs, il faut beaucoup de vaches ici. Donc voilà, c'est vraiment des aides. Par exemple, il y a une exploitation, c'était à peu près 300-400 hectares. Donc pour entretenir 300-400 hectares, il faut pas mal de personnes, pas mal de tracteurs, et ça, ça a un coût. Donc l'Union européenne à créer cette PAC pour effectivement aider les agriculteurs à entretenir ces terrains-là.
Est-ce facile de vivre de travailler actuellement?
Pour moi, oui. Après, tout dépend de notre train de vie. Enfin, moi, ma compagne est institutrice. Donc, fonctionnaire avec un travail... disons stable, c'est pour ça que j'ai fait aussi ce choix-là. Après, il y en a certains qui vont dire que c'est un peu plus difficile que d'autres. Moi, mon choix de faire du maraîchage biologique et de vendre en direct me permet maintenant, au bout de 4 ans, de me tirer un petit salaire qui suffit à notre famille de 4 personnes.
Quels sont les débouchés et les perspectives personnelles d'avenir dans votre profession ?
Les débouchés, les perspectives d'avenir.
Il faut savoir que le bio est en pleine expansion. Tout ce qui est exploitation, les chiffres d'affaires, les terres agricoles ont doublé en 5 ans. Il y a beaucoup plus de demandes. Il va falloir créer beaucoup plus de terres agricoles biologiques pour fournir la population française, européenne, puisqu'on apporte quand même pas mal de biologie en France. Donc oui, le marché est porteur et on est de plus en plus sensible, je pense. Tout ce qui est bio, nature, voilà. Oui, c'est en expansion et il y a un avenir dans cette filière-là.
Comment arrivez-vous à toucher les consommateurs?
On a fait quelques flyers, des petites pages à distribuer au tout début par les parents d'élèves, les amis, et en fait ici c'est un petit massif, donc c'est beaucoup du bouche à oreille. Voilà, moi personnellement c'était un peu ça, c'était des gens de proximité, et puis ça petit à petit petit à petit, on s'est approché du nombre de paniers, puisqu'on vend en paniers au terrain. Et on a eu assez de nombre de paniers en 3 ans. Ça s'est accéléré les fins d'année avec le Covid, les ventes directes. Mais voilà, toucher, c'était, ouais, on est un peu nul en communication, donc c'était surtout du bouche à oreille.
Vous avez un site internet, je crois, non ?
Oui, on a un site internet, oui, des Beaux Jardins, qui a été fait au tout début. On a mis pas mal de choses pendant 2 ans, et à vrai dire, j'ai moins de temps pour mettre des actualités, mais on peut voir sur le site les photos, l'historique un peu, l'histoire des Beaux-Jardins qui a commencé il y a 4 ans. Donc voilà.
Expliquez-nous ce que vous entendez par autonomie alimentaire.
Alors, en parlant d'autonomie alimentaire, on parle de la capacité d'une population donc à se nourrir sur son propre territoire. Hein, donc aujourd'hui, on en est assez loin. Il faut savoir qu'un certain nombre assez conséquent des denrées alimentaires qui sont consommées sur place viennent de loin et même parfois de très loin.
Sur quel territoire considérez-vous l'autonomie alimentaire possible ? Juste sur le territoire ou à l'échelle régionale, par exemple ?
Alors, moi, aujourd'hui, hein, mes considérations, hein, c'est surtout à l'échelle du massif des Vosges. C'est une échelle intéressante pour qu'au niveau associatif, collectif, pouvoir monter des projets, faire des propositions et puis avancer. Après, bien évidemment, la question, elle se pose aussi à différentes échelles, hein, le département, la région. Après, on va arriver plus sur le territoire, des administrations, des politiques, ça complique un peu tout. Mais voilà, ouais, pour ma part, je me concentre plus sur le massif où je pense qu'il y a des choses à faire pour faire avancer les choses. Plus tu t'imagines le projet comme étant quelque chose de gros, et plus on va te mettre des bâtons dans les roues potentiellement, quoi. Hein, plus t'as de démarches administratives à faire, plus c'est ça. Hein.
Sur quelles ressources peut-on compter ? Suffisent-elles ?
Alors, bah, on va toujours parler à l'échelle du massif. Donc, les ressources, est-ce qu'elles suffisent ? Je suis convaincu qu'elle pourrait suffire. On va prendre, pour exemple, comment ça se passait dans le temps. On va remonter vers 1845, donc quand même il y a 175 ans. Il devait y avoir plus de 13 500 personnes sur le massif, en entendant le massif réduit, hein, les 14 communes historiques. Et à cette époque, bah, l'importation était vraiment bien moindre. Donc les gens arrivaient à se nourrir localement. En petit exemple, sur la commune du Châtelard, à cette époque-là, les terres qui servaient pour produire des céréales et des légumes représentaient 933 hectares. Aujourd'hui, j'ai pas les chiffres précis, mais je pense qu'avec les doigts de mes deux mains, ça suffirait à compter la production d'aujourd'hui. Donc les ressources, elles sont là. Après voilà, c'est une question d'organisation, d'orientation. Faut savoir qu'aujourd'hui, le nombre d'agriculteurs est devenu très bas, contrairement à une époque où beaucoup de personnes participaient à la vie au jardin et au champ et à l'élevage. Les types aussi de production se sont plus uniformisés qu'à l'époque. Donc sur le massif aujourd'hui, bah, beaucoup d'élevage bovin laitier. Et donc oui, je pense que les ressources sont suffisantes, mais que ça demanderait des modifications, notamment une diversification des productions et aussi un retour de plus de personnes au travail des terres.
Travaillez-vous en collaboration avec d'autres personnes ?
Donc oui, on travaille en collaboration avec d'autres personnes. Sur l'exploitation, donc on est deux à travailler. Après, à partir de l'année prochaine, je continuerai tout seul. Mais j'ai bon espoir quand même un jour de réussir de retrouver le travail à deux. Après, on a des collaborations avec les magasins, notamment surtout avec l'épicerie Croque-Bauche de l'Echeraine, qui est un magasin qui prête une attention toute particulière à ce que leurs produits soient un maximum local. Donc c'est un soutien intéressant. Après, on va avoir des collaborations un peu avec des éleveurs pour récupérer du fumier, avec des particuliers, les mairies, pour récupérer du bois, pour pouvoir le broyer. On est en lien avec pas mal de personnes. On peut parler aussi des producteurs de plants et des producteurs de semences. Pour l'instant, c'est un peu moins du local. Hein. On travaille en partie avec des producteurs qui sont hors département. Mais c'est des pistes de réflexion après pour réussir un jour à pouvoir s'en passer ou alors les utiliser le moins possible.
Justement, au Croque-Bauche, il y a des initiatives par rapport aux semences. Est-ce que vous pouvez l'évoquer ?
C'est la grainothèque. C'est comme une petite bibliothèque, sauf qu'au lieu de mettre des livres, on met des petites graines dans des enveloppes avec la variété, l'espèce et la date où ça a été créé. Ce qui fait que quand on va à Croque-Bauche, si on a besoin de salade, de carottes par exemple, on peut aller voir, on peut aller regarder s'il y a des personnes qui ont amené des semences et soit on les échange, soit on les récupère, on peut les déposer. Et voilà, l'idée c'est aussi de créer des variétés assez sensibles à ce climat-là, parce que chaque région a un climat plus ou moins différent. Là on est en altitude, c'est un peu montagnard, donc c'est un peu froid. Donc plus on va garder ses graines, faire ses propres graines, plus elles vont s'adapter au climat de la région et le climat qui évolue sans cesse maintenant pour pouvoir qu'elles s'adaptent un peu plus facilement à ce climat-là, à celui-là.
Après, donc, cette grainothèque, elle est quand même plus axée à l'usage des particuliers. Il faut savoir qu'après, au niveau législation, nous, on n'aurait pas le droit d'utiliser ces graines dans nos plantations et d'ensuite vendre les légumes, de les commercialiser. Et c'est bien dommage, hein, ça nous prive de toute une richesse de semences et de plantes locales qui pourraient être intéressantes à utiliser. Donc espérons qu'un jour aussi les lois iront dans ce sens-là et qu'on pourra faire vivre des espèces locales plus facilement.
Comment envisagez-vous l'avenir dans votre domaine ?
Alors l'avenir, je l'imagine assez différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Je pense qu'on va vivre des changements assez conséquents. Et je l'imagine assez dur, mais en même temps intéressant, cet avenir.
Bon, ben, merci à vous. Merci de vous être prêté au jeu. Hein ? Donc j'espère que ça vous a éclairé sur éventuellement une partie de solution qu'on pourrait apporter à cette surconsommation. Ok.
Merci beaucoup. Okay, merci à vous.
Carte blanche sur Radio Alto.